Alors, on va prier et après ça, on va débuter. En fin de séance, on saluera encore les gens qui sont connectés. Donc, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Que nous soyons dispersés aux quatre coins de cette ville ou même plus loin encore, tu es présent parmi nous. Et la même grâce, Seigneur, que tu déverses en ce lieu, je demande, Seigneur, que tu puisses aussi la déverser sur chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, et sur toute personne, Seigneur, qui se connectera à nous en direct ou en différé. Que ta grâce, Seigneur, leur soit accordée. On te demande, Père éternel, de te manifester, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, et de faire en sorte, Seigneur, qu'à la sortie de cette rencontre, nous ayons grandi, nous nous soyons affermis en toi et que nous puissions connaître un peu plus ta pensée pour nous aujourd'hui. Alors que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi aujourd'hui durant toute cette journée et jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, on ouvre nos Bibles bien sûr dans le passage qu'on étudie pour toute la semaine qui est 1 Pierre 2, 9, et je lis pour vous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je répète, vous tous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors hier, on a vu bien sûr la race élue. On a eu l'occasion de démystifier certains aspects de notre comportement et voir quelle était la pensée de Dieu. De façon parfois un peu ébranlante, mais on vous invite à regarder, pour ceux qui n'étaient pas là, à regarder l'enseignement d'hier pour prendre aussi votre dose d'enseignement par rapport à cela. Et aujourd'hui, on étudie le groupe nominal, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Sacerdoce est le terme grec hieratuma. Hieratuma, qui s'écrit Hieratuma. Hieratuma. Et on le voit simplement deux fois dans la parole, et c'est dans 2 Pierre 2, 9, et si vous allez quelques versets plus tôt, dans 2 Pierre 2, 5. Et on parle encore là d'un sacerdoce. On parle encore là du travail du sacrificateur. Donc, quand on parle de hieratema, on parle effectivement de l'office, du travail, de l'appel à un ordre de prêtre, de sacrificateur, d'ouvrier, de lévite dans le royaume de Dieu. Hieratema est composé de deux racines grecques. La première, hieraco, ou hieros, qui sont deux mots dans la même famille. Donc hieraco ou hieros, qui veut dire sacré, et qui parle aussi d'une hiérarchie. Une hiérarchie comme quoi le sacré est au-dessus de ce qui est vil, de ce qui n'est pas sacré. De surcroît à ça, on a aussi le terme thema, qui vient du grec thema, Thema, qui veut dire placer, poser, mettre en place, établir ou disposer d'une chose. En fait, ce qu'on est en train de dire ici concernant le sacerdoce, c'est que le sacerdoce, c'est un ordre qui a été établi par Dieu. C'est un groupement qui a été conçu, fait et établi par Dieu. Et il a été établi au-dessus d'autres groupes sociaux ou d'autres groupes de services. Le terme royal, c'est le terme basileios, basileios, qui s'écrit B-A-S-I-L-E-I-O-S. Je répète, B-A-S-I-L-E-I-O-S, qui lui aussi apparaît deux fois dans le Nouveau Testament, donc ici dans 1 Pierre 2,9, et qu'on retrouve aussi dans Luc au chapitre 7 et le verset 25, Luc 7, 25, où on va nous parler de la maison des rois, des choses qu'on trouve dans la maison des rois. Donc ici, le basileos vient du grec basile et d'un autre terme, basileus. Basile qui veut dire une marche, et je ne parle pas d'aller prendre une marche, mais d'une marche dans un escalier, donc un palier plus élevé, un piédestal, une base et une allure fringante, quelque chose qui a bonne allure. Basileus, l'autre terme de quel est tiré basileos, c'est un terme qui veut dire un roi ou qui découle du roi, qui découle de la royauté. Alors juste pour remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ce texte, ici Pierre s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Au départ, les lettres que la plupart du Nouveau Testament va constituer étaient des lettres qui étaient adressées principalement à des croyants d'origine juive, donc des judaïsants qui s'étaient convertis à l'évangile de Christ, qui s'étaient convertis au Messie qui était Jésus, et qui apprenaient les nouveaux rudiments de cette entité qu'on appelle l'Église. Donc ici, c'est une exhortation à ces chrétiens juifs qui se rendent compte qu'ils ne sont plus les seuls au monde, qui se rendent compte qu'ils ne sont plus le centre de l'attention de Dieu, mais que le groupe que Dieu va appeler son peuple, va appeler sa famille, va appeler sa nation, son corps, comme on le voit dans les Écritures, va maintenant être un groupe qui est constitué non seulement de juifs, mais aussi de païens convertis. Et ça, c'est un choc quand même pour les juifs qui sont chrétiens, parce que pour eux, c'est comme une peine de saisir qu'ils ont perdu leur hégémonie par rapport à l'ensemble des croyants. Et Pierre va leur dire, ben, vous êtes obligés de passer à cette nouvelle phase, parce que c'est comme ça maintenant que Dieu fonctionne avec ce qu'on appelle l'Église. Et soyons clairs, la pensée de Dieu concernant l'Église n'est pas une improvisation du Nouveau Testament. La pensée de Dieu par rapport à l'Église est une pensée éternelle. Dieu n'a jamais pensé que les seuls sauvés et que les seuls que lui désirait sauver étaient d'origine juive. Lorsque il va faire sa promesse à Abraham en disant « Ta postérité sera encore plus nombreuse que le sable de la plage ou le sable de la mer », il est en train de penser à l'ensemble des croyants qui se joindront, oui, à la famille physique et aux descendants physiques d'Abraham, mais la pensée de salut et la pensée de la postérité spirituelle d'Abraham était inclusive par rapport à vous et moi qui ne sommes pas juifs d'origine. Donc ici, on est en train de dire aux juifs, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle distribution des rôles. Hier, on a vu que c'était le terme génos pour la race élue. Et un des points que j'ai omis de vous dire, c'est que génos, de là vient aussi le mot genèse, et qui veut dire le départ, le commencement. Alors, pour l'ensemble des croyants, juifs ou non juifs, c'est le commencement d'une nouvelle époque, l'époque de l'Église. On repart, on redémarre la machine avec une nouvelle identité, avec un nouveau mode de fonctionnement, et ce nouveau mode de fonctionnement s'appelle l'Église. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est que ici, lorsqu'on parle d'un sacerdoce royal, ça veut donc dire que la génération de l'Église, ceux depuis la mort de Christ jusqu'à son retour, nous sommes appelés à être une génération de sacrificateurs. Sacerdoce, c'est lié au terme sacrificateur. C'est lié à celui qui officie le culte rendu à Dieu. Alors, dans cette nouvelle façon d'opérer, dans ce nouveau mécanisme qu'est l'Église, la génération de sacrificateurs est instaurée de droit divin. Ça, c'est un terme technique qu'on utilisait notamment lorsqu'on établissait un roi à l'époque monarchique, et on disait que sa royauté, son règne, lui était accordé de droit divin, donc émanait directement de Dieu, était une décision de Dieu. Donc ici, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui t'établit à toi et qui m'établit à moi, et qui établit chacun comme des croyants, comme un sacrificateur. Sacrificateur sur la famille auprès de laquelle il est établi, mais surtout sacrificateur auprès du temple que lui-même est. Rappelons-nous ce verset qui nous dit que nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et dans un temple, qu'est-ce qu'on fait? On offre un culte que l'on veut agréable à Dieu. Et sur le temple que représente ton corps, tu es le souverain sacrificateur, tu es le principal sacrificateur à l'œuvre mandatée et appelé à œuvrer à travers ce temple afin d'offrir à Dieu un culte, afin d'offrir à Dieu des louanges, une adoration qui lui soit agréable. Alors chacun d'entre nous maintenant, nous sommes effectivement des sacrificateurs. Chacun d'entre nous, à partir de l'ère où démarre l'Église primitive, nous sommes tous et chacun appelés à offrir un culte à Dieu. Autrefois, ce n'était que les Lévites qui offraient des cultes à Dieu. Le peuple hors de la tribu de Lévi amenait des offrandes, amenait des sacrifices, mais ceux qui opéraient le culte, c'était limité aux Lévites, aux descendants de la tribu de Lévi. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on en fait partie. Le deuxième point, c'est que le culte est dorénavant une tâche, donc un travail, une responsabilité, un devoir et un mode de vie pour chacun d'entre nous. Et ce que je fais de cette tâche, de cette responsabilité, de ce mode de vie, j'en suis imputable. Je suis imputable du culte que je rends à Dieu ou du culte que je ne rends pas à Dieu. Je suis imputable du culte agréable que je rends à Dieu, ou je ne suis pas imputable je suis imputable du culte agréable et du culte désagréable que je pourrais rendre à Dieu. Contrairement à l'Ancien Testament, où c'était la principale vocation des enfants de Lévi, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est ma responsabilité. Ça veut dire que ta responsabilité spirituelle et de faire en sorte que tu puisses adorer Dieu adéquatement, que tu puisses le célébrer comme il le mérite. Et ça, c'est plus une charge que tu laisses strictement sur les épaules d'un pasteur, d'un ancien, sur les épaules d'un aîné dans la foi. Oui, il y a des serviteurs qui sont appointés pour l'Église. Il y a des serviteurs qui ont été donnés à l'Église tel que la parole de Dieu nous dit. Parmi eux, les prophètes, les enseignants, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes ont été donnés comme un cadeau à l'Église. Mais ces gens-là ne remplacent pas et ne font pas le culte que toi, tu es supposé offrir toi-même à Dieu. Donc, je suis imputable, je vais devoir rendre des comptes à Dieu du culte que je lui rends, de l'utilisation du temple qu'il m'a accordé. Ce corps physique qu'il m'a donné est supposé être le temple du Saint-Esprit. Comment je l'utilise? À quoi je l'utilise? Les motivations pour lesquelles je l'utilise? Comment j'occupe le temps qui lui est imparti? Comment je passe ma journée? Je suis imputable parce que ce temple-là ne m'appartient pas. Ce temple est le temple du Saint-Esprit et je l'utilise. Je ne suis qu'un utilisateur de ce temple pour rendre ou non un culte à Dieu. Et en ce sens, tu es imputable et je suis imputable. De surcroît à ça, oui, il y a des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont mandatés par Dieu pour aider l'Église, pour assister l'Église, et pour t'assister et pour m'assister. Mais principalement, le rôle spirituel maintenant t'incombe à toi. Si tu grandis dans la foi, c'est ta responsabilité. Si tu décrois, ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur, bien que celui-ci ait un travail à faire, mais ta nourriture quotidienne ne vient pas de lui. Ta nourriture quotidienne spirituelle vient de ton étude, de ta méditation, de ton repas que toi-même tu te prépares dans la présence de Dieu. Ton enracinement dans la parole de Dieu ne vient pas de la prière et de l'intercession et de la lecture ou de l'étude que ton pasteur peut faire, mais du fait que toi tu prends aussi cette parole, que tu te l'appropries, que tu l'étudies, que tu la médites, que tu la mémorises, que tu l'apprennes, que tu apprennes à la comprendre. Donc tout ce travail-là t'incombe à toi. Et pour ça, effectivement, toi et moi, nous aurons des comptes à rendre. Troisième point pour ce matin, nous sommes une génération non seulement de sacerdoce, mais on nous parle d'un sacerdoce royal. Et en fait, la terminologie grecque va un peu plus dans le sens de nous sommes non seulement des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des enfants de la famille du roi. Donc, des princes, des princesses, des gens qui sont dans la famille royale. Donc, une génération d'héritiers royaux, d'héritiers du royaume de Dieu, donc avec tous les droits que ça implique. Ça veut dire que si j'ai des droits dans ce royaume, j'ai effectivement la carte blanche pour utiliser ces droits. Si Dieu a une puissance en tant que roi, moi en tant que son enfant, j'ai le droit d'utiliser la puissance de mon père dans la mesure de l'utilisation adéquate que le royaume et que le roi impose. Donc j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs en tant que membre de la famille royale. Souvent, les petites filles qui grandissent veulent être des princesses, puis espèrent qu'un jour elles auront un prince, mais une princesse a des responsabilités. Une princesse n'est pas tout simplement celle qui profite de la cour et profite des bonnes grâces de son père qui est roi. Une princesse a des devoirs envers l'ensemble de ses sujets, de l'ensemble de sa populace. Un roi, on le dépeint comme deux choses. Un mauvais roi, c'est celui qui profite de sa population pour s'enrichir et faire grandir ses avoirs et ses trésors, mais un bon roi est celui qui prend bien soin de sa population. Régulièrement, on va parler de certains individus qui ont été des bras droits importants auprès de certains rois, un qui me vient à la pensée, et Joseph. Joseph a pris soin du roi, oui, mais de surcroît à ça, Joseph, qui était le premier ministre auprès du roi égyptien, auprès du pharaon, va prendre soin de l'ensemble de la populace. Et nous, en tant que fils du roi, en tant que fille du roi, en tant que membre de la famille royale, nous nous devons à l'ensemble de la population. Nous nous devons à l'ensemble de l'humanité. Notre royaume englobe l'ensemble de l'humanité. La portée de notre roi, de notre Père céleste, est pour l'ensemble de cette génération et de celles qui nous ont précédés et de celles qui vont suivre. Donc moi, en tant que représentant du royaume de Dieu, je dois savoir que j'ai une responsabilité par rapport à mon voisin, par rapport à mes concitoyens, par rapport à ceux de ma génération, par rapport aux gens que je croise dans ma vie de tous les jours. Qu'ils soient chrétiens ou non, j'ai une responsabilité envers eux. Et cette première responsabilité, c'est de voir à leur bien éternel. Donc, voir à leur partager l'Évangile, voir à leur faire connaître le roi, voir à les apaiser dans leur relation avec le roi des rois, voir à ce qu'il y ait une réconciliation entre eux et Dieu, et être en ce sens des agents de bénédiction, des agents de paix, de bons représentants du roi des rois qui est notre Seigneur et qui est notre Père. Donc, moi, en tant que membre de la génération royale, moi en tant que membre de cette famille royale, j'ai non seulement des droits, mais j'ai aussi des devoirs par rapport à l'ensemble de mes concitoyens. Quatrième point, on parle ici d'un changement. On parle ici que les Juifs qui se convertissent à Christ, on va leur enseigner comme quoi ben, ils ne sont plus seuls. Ce ne sont plus eux strictement descendants physiques, descendants génétiques d'Abraham qui sont enfants de Dieu. Mais ils vont voir se joindre à l'Église des païens, des gens qui étaient considérés comme moindres autrefois et qui maintenant vont être égaux à égaux avec eux. Et ça, c'est toute une adaptation. Savoir, j'ai eu un terrain qui m'est accordé pendant un certain temps, j'ai eu un statut qui m'est accordé pendant un certain temps, et maintenant quand je viens à Christ, je dois changer ma façon de faire, ma façon de voir, et comprendre que je ne suis plus le centre de l'attention de Dieu, mais qu'il y a tous ces gens que je dénigrais auparavant, que je ne voulais pas côtoyer auparavant, qui maintenant sont comme moi, des enfants de Dieu, sacrificateurs eux aussi, et fils du roi eux aussi. Donc, ils sont non seulement des Lévites, comme moi je suis appelé à être un Lévite, mais de surcroît à ça, ils sont eux aussi membres de la famille royale, comme moi je suis membre de la famille royale. Alors, ça va prendre différents items pour réussir cette adaptation pour ceux qui étaient là auparavant seuls. Et pour eux, ça va leur prendre non seulement de l'humilité, donc ça prend une humilité pour savoir que il y en a d'autres qui ne me ressemblent pas, qui ne parlent pas comme moi, qui ne vivent pas comme moi, qui ne mangent pas comme moi, qui ne louent pas comme moi, qui n'élèvent pas en prière leur voix comme moi, mais qui sont eux aussi enfants de Dieu, parce qu'ils ont reconnu Christ comme leur roi, comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Alors, de l'humilité, ça prend une adhésion à l'Église. C'est moi qui décide d'adhérer, effectivement. Je ne reste pas réfractaire à la chose. Sinon, je ne suis pas chrétien. Si je suis réfractaire aux membres que Dieu ajoute quotidiennement à l'Église, si je suis réfractaire au corps, je suis aussi réfractaire à la tête. J'ai trop souvent entendu des gens qui disaient « Moi, j'ai pas de problème avec Dieu, j'ai des problèmes avec l'Église. » Mais foncièrement, si l'Église est son corps, tu peux pas simplement aimer une tête. Une tête sans corps, ça n'a aucun sens. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas aimer non seulement la tête qu'est Jésus, mais tu vas aimer aussi l'ensemble du corps que constitue l'Église. C'est comme lorsque tu rencontres ton bien-aimé ou ta bien-aimée, c'est pas juste la tête que tu aimes, c'est l'ensemble de l'œuvre que tu vas devoir aimer et apprécier. Et en tant que croyant, en tant que membre du corps de Christ, je dois aussi, moi, laisser l'adhésion à ces nouvelles personnes et embrasser cette adhésion et embrasser cette nouvelle façon de faire. Et oui, ça va prendre de l'adaptation. Il va falloir que je m'adapte. Je vais m'adapter, moi qui suis juif, à avoir un non-juif à côté de moi. C'est ce que Pierre est en train de dire à ses lecteurs. Vous qui étiez juifs, mais maintenant sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a tous ces païens, autrefois païens, qui sont convertis, qui sont maintenant des chrétiens comme vous et comme moi. qui ont reçu les mêmes dons, les mêmes grâces, la même miséricorde, la même bénédiction de Dieu, et on ne peut pas faire autrement que de les reconnaître comme étant des enfants de Dieu eux aussi. Et ça va prendre une adaptation. Alors si je suis pas prêt à m'adapter, je vais avoir beaucoup de misère à cadrer dans ce qu'est l'Église. Donc pour eux, tout comme pour nous aujourd'hui, ça nous demande aussi de l'adaptation. Mais pensons de façon précise à ces deux groupes, à ces deux tribus. La tribu de Lévi, la tribu de Judas. Lévi était les seuls qui opéraient le sacrifice. La tribu de Lévi était les seuls qui offraient la louange, le culte à Dieu. La tribu de Judas étaient les seuls qui pouvaient prétendre au trône de Dieu, au trône de David. Et aujourd'hui, on nous dit que ce n'est plus les Lévites simplement, ce n'est plus les Judéens ou les descendants de Judas strictement, mais c'est l'ensemble des croyants. Donc là encore, ça prend de la part des prédécesseurs de l'adaptation, ça prend de la part de ceux qui étaient là avant, une souplesse et une ouverture. Et dans l'Église, il se passe exactement la même chose. Il y a des phases dans lesquelles de nouvelles personnes sont greffées à l'Église. Et avant qu'on ne tombe dans le confinement, lorsque je m'adressais à l'Église locale et à vous qui faites partie de notre Église précisément locale, je disais, c'est le temps que nous nous préparions pour ce qui va venir après. Et je vous ai dit, dans ce qui vient après, c'est aussi des gens qui viennent après, des gens qui ne font pas les choses comme nous, des gens qui n'ont pas tout l'historique que nous pouvons avoir. Par la grâce de Dieu, notre Église va fêter l'année prochaine 50 ans. Mais en 50 ans, on prend des habitudes, en 50 ans, on prend des façons de faire. En 50 ans, on a nos propres méthodologies et nos propres méthodes et nos propres façons de faire. Mais quand quelqu'un arrive du jour au lendemain de l'extérieur et rentre parmi nous, ben c'est évident que les choses qu'il fait sont différentes. La façon dont il approche Dieu, la façon dont il parle à Dieu, c'est différent. Et pour nous, si on est trop conservateur dans nos us, nos coutumes de jadis, ben on va avoir de la misère à accueillir ces nouveaux croyants, ces nouveaux convertis au sein de l'Église. Alors je pense que ce verset est tout à fait approprié, non seulement pour l'Église de l'époque de l'apôtre Pierre, où il s'adressait à ces Juifs qui étaient bousculés par l'arrivée des païens, des nouveaux convertis qui étaient autrefois ce qu'on appelait des gentils, donc des non-Juifs, mais pour nous aussi, croyants de 2020, c'est aussi un appel à être souple, à être ouvert, à être capable d'accueillir, à être capable de greffer à l'ensemble de l'Église déjà préexistante, tous ces nouveaux arrivants. Et je peux vous assurer que ça va être le défi pour nous à travers les prochaines semaines. Ça va être le défi pour toi et pour moi de voir des gens qui n'ont pas le même vécu que nous, qui n'ont pas le même vécu que moi, et d'être capable de m'associer à eux, de les embrasser comme étant eux aussi des Lévites dans la maison de Dieu, et comme étant eux aussi des enfants du roi dans le palais royal. Alors c'est une exhortation pour ceux qui sont d'origine juive, mais c'est une exhortation encore tout à fait pertinente pour nous aujourd'hui. Comment nous adaptons-nous à ceux qui viennent? Et ceux qui viennent, comment s'adaptent-ils à ces nouvelles pratiques que représente l'Église? Alors oui, nous sommes une race élue, il n'y a plus de juifs ni de grecs, et dans cela, dans ces ex-juifs, ex-grecs, il y a effectivement une panoplie de sacrificateurs et une panoplie de fils et de filles du royaume. Sachons les accueillir, sachons les embrasser, sachons les voir, les aider, les appuyer dans leur établissement, dans le royaume de Dieu. C'est nouveau pour eux, c'est nouveau pour nous. On va apprendre ensemble. Alors prions pour nous tous ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur parce que nous qui n'étions en aucun cas en droit de célébrer ta majesté, Maintenant, Seigneur, tu as fait de nous des sacrificateurs dans ton royaume. Seigneur, nous qui n'avions aucun droit, aucun privilège d'être enfants et filles et fils du roi, aujourd'hui nous sommes cohéritiers avec Christ. Seigneur, quel privilège! Et nous voulons t'en dire merci. Nous ne voulons pas oublier que cette progression, ce nouveau statut est dû à ta grâce et à ta miséricorde. Mais ce matin, Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui sont là depuis un certain temps, qui pourraient s'être habitués à des positions, à des façons de faire, à des us, à des coutumes. Nous savons, Seigneur, que cette nouvelle génération de croyants qui va entrer dans nos murs vont amener des choses différentes. Et c'est tout à fait approprié puisque ton Église est un corps vivant et un corps se doit de se développer, de se transformer, de croître, de changer. Sinon, c'est un corps qui est mort et qui va tomber en décrépitude. Alors nous prions, Seigneur, que nous ayons cette souplesse en voyant arriver ces nouveaux croyants, ces nouveaux frères, ces nouvelles sœurs. Que nous ayons toute la grâce, toute l'affection et tout l'amour, Seigneur, qui habite en toi, notre Père céleste. Lorsque toi-même tu as ouvert les bras pour nous accueillir, que nous, en tant que représentants du royaume, nous puissions ouvrir nos bras aussi pour les accueillir et les recevoir parmi nous. Que nous puissions les aider à s'établir parmi nous, afin qu'ils ne fassent pas un aller-retour vers le monde, ô Dieu, mais qu'ils s'établissent pleinement, définitivement, entourés de ta grâce, de ta miséricorde, mais entourés aussi de l'amour de tes enfants, de l'amour de ta famille, de l'amour de ton peuple. Alors, Seigneur, façonne-nous. Si tu vois que entre tes mains, nous sommes devenus comme de l'argile qui est devenue dure, sec, veuille nous hydrater. Fais ce que l'homme ne peut pas faire, ô Dieu. Hydrate-nous. Transforme-nous afin qu'on redevienne malléable entre tes mains pour être ces agents de paix, ces agents d'amour, ces agents d'accueil auprès de ces nouveaux arrivants. Merci, Seigneur, de nous assister, de nous aider dans cette nouvelle phase à laquelle nous nous apprêtons, de nous aider, de nous appuyer, de nous préparer pour les semaines et les mois qui viennent afin d'être l'Église que tu veux pour aujourd'hui. Alors je bénis mon frère, je bénis ma sœur, que ta parole continue à nous instruire et arrose cette parole par ton esprit afin qu'elle puisse croître en chacun d'entre nous. Identifie des secteurs de notre vie que tu veux transformer et changer. Et merci, Seigneur, de prendre le temps de travailler dans nos vies. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes et que tu prends soin de nous, pour ta gloire et pour ton honneur, Jésus. Amen. Alors, voyons voir qui s'est joint à nous depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais être capable de tous les voir. Donc, je crois la sœur Florie, le frère Louis, Marjo, bonjour, Inès, God bless you, Marie Huguette, bonjour, et je crois que c'est tout dans les salutations. Donc, on rappelle les rendez-vous de cette semaine. Avant ça, je vous rappelle un grand rendez-vous pour aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la sœur Jocelyne Damus, Joyce Damus, dans son pseudo Facebook. Donc, vous pouvez la saluer encore une fois. Et simplement vous rappeler donc les rendez-vous pour cette semaine. On continue demain matin avec notre méditation matinale, notre bénédiction matinale. Demain, ça sera une nation sainte. Une nation sainte. Et demain soir, l'étude biblique avec le pasteur Sergio, servir Dieu en des temps de défi ou en période de défi à partir de 19h. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont toujours cours jusqu'à vendredi matin. Donc, on peut accueillir une trentaine de personnes, les trois groupes qui sont pour l'instant admis ou invités à prendre part à ces assemblées plutôt. Ce sont les personnes seules de 55 ans et plus, Donc, vous pouvez appeler au 273-8295 dans le 514, le numéro de l'Église. Donc, 55 ans et plus si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, mais que votre conjoint ou votre conjointe ne fréquente pas l'Église, là encore, c'est 55 ans. Donc, vous êtes en couple, votre conjoint ou votre conjointe ne fréquente pas l'Église, 55 ans et plus, vous pouvez appeler. Et le troisième groupe, 65 ans et plus, pour tous les couples de l'Église. Donc, vous êtes un couple, 65 ans et plus, vous pouvez venir à l'Église, ou au moins un des deux qui a 65 ans. Parfois, on a un des représentants qui a 65 ans, puis l'autre qui a 63, puis ils nous disent, est-ce qu'on peut venir, on ne peut pas venir. Si un des deux a 65 ans, vous pouvez venir. Donc, on vous invite à appeler. Je rappelle le numéro de l'Église, 514-273-8295, 514-273-8295. Vous dites, je suis telle personne, voici mon numéro de téléphone, j'aimerais m'inscrire pour l'assemblée de dimanche le 12 juillet. Et nous, vendredi, on vous rappelle. Donc, vous ne venez pas si on ne vous a pas confirmé. Il faut vraiment obtenir la confirmation. C'est pourquoi on vous demande de laisser votre numéro de téléphone. Donc, 273-8295, 273-8295, dans le 514. Votre nom, votre numéro de téléphone. Vous dites que vous voulez « Je veux m'inscrire » ou « Nous voulons nous inscrire » pour l'assemblée du 12 juillet. Et on vous rappelle donc vendredi matin le 10 juillet. Sur ce, donc, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée dans la paix, dans la présence de Dieu, et soyez de bons lévites, et soyez de bons représentants du royaume de Dieu, vous qui êtes princesse et prince auprès de notre Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.